Mouvements de jeunesse, mouvements sectaires en abondance, vous les connaissez, ce sont généralement des mouvements que je trouve ignobles personnellement, parce qu'ils cherchent à, justement, à séduire la jeunesse, à l'endormir, à l'envoûter. Toutes les sectes de scientologie, secte Moon, secte Krishnaïte, etc. Il s'agit de modeler l'enfant, de le conditionner pour qu'il serve les intérêts d'un Moon, justement, un milliardaire chinois ou asiatique ou indien. Et les jeunes y marchent parce qu'ils n'ont pas. Les jeunes ne savent pas ce que c'est que le mythe, ils savent pas ce que c'est que l'ésotérisme, ils ne savent pas ce que c'est que. Comment se fonctionne l'esprit humain, comment s'organise, comment on peut conditionner l'esprit humain. Alors ils marchent, il suffit que quelqu'un leur sourie gentiment, que quelqu'un les chante bien, que quelqu'un flatte leur. Oui, le flatte tout simplement. Leur ambition, leur orgueil qu'il y a au fond de chacun de nous. Et puis, le jeune, il est pris, il est emporté, il est enlevé. Il est enlevé, littéralement. Mais enfin, des sectes comme ça, il y en a de plus en plus. Et autant j'honore le jeune dont je vous parlais, même le beatnik, même le blouson noir, même le hooligan, autant je méprise et je crains ces sectes de conditionnement. Mais malheureusement, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Comme la révolution des jeunes ne peut pas aller sans une recrudescence d'autres délires de la drogue, c'est comme ça. C'est peut-être aussi comme ça qu'on arrive à se calmer, à se modérer, à devenir raisonnable. Dans le bon sens du mot, pas rationaliste, mais raisonnable, c'est-à-dire savoir ce qui est bon et savoir ce qui est mauvais, savoir ce qui vous détruit et savoir ce qui vous élève, ce qui vous grandit, ce qui vous rend plus intelligent ou ce qui vous rend plus idiot. Ça s'apprend, tout ça s'apprend. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, d'ailleurs. Jeunesse, mouvement de jeunesse, mouvement sectaire, mouvement, évidemment, de délire, mouvement de crime. Et puis d'autres sciences, d'autres industries. Il y a une chose tout de même curieuse, c'est que ces vaincus d'hier, et ce sont eux seuls, hein, les Texans dont je vous parle, ceux du Sud qui ont vaincu, les Nordistes ont vaincu pendant la guerre de sécession, les Arabes, l'Islam, le musulman, que la colonisation a vaincu pendant un siècle, que les Français, les Anglais, les Belges ont essayé d'asservir et de réduire à rien. C'est la même chose. Gens du Sud, dans les deux cas, Texans ou musulmans, gens du Sud, rejetés par les gens du Nord, colonisés par les gens du Nord, humanisés, civilisés par les gens du Nord. Eh bien, ces peuples-là, ils ont relevé la tête en même temps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé le pétrole. C'est bête comme chou. Le pétrole leur est tombé dessus. Et du coup, les peuples du Nord, les industriels du Nord, les laineux du Nord, ils étaient bien embêtés. Parce qu'à côté des richesses du pétrole, leur petite industrie, c'était pas grand-chose. Alors, libération du Texas, libération de l'islam, oui. Il ne faut pas grand-chose pour renverser l'histoire. Mais c'est toujours la même chose. Derrière cela, il y a... J'ai trouvé dans le Coran, j'ai fait un commentaire sur le Coran, l'islam dans le Coran. Eh bien, il y a une annonce. Une annonce de Mahomet, lui-même dans le Coran, pour notre époque. Je donne 19 années à peu près à chaque sourate. Il y a l'annonce des jours que nous vivons. Il y a la pluie bienveillante, la pluie favorable qui va libérer l'islam de l'esclavage. Mahomet dit que ça ne dure pas toujours. Et qu'ils auraient tort de croire que c'est pour toujours que le pétrole leur est consenti. Mais je cite ça pour montrer que c'est un peu en dehors de mon sujet, mais pour montrer que la vision historique, économique, rationnelle de l'histoire, et ma vision à moi qui est mythologique, ésotérique, qui se fonde sur les pensées et non pas sur les richesses ou les possessions des gens. Ces deux points de vue sont beaucoup moins opposés qu'on ne peut le croire, sont beaucoup moins ennemis. Il y a un moment où le mythe devient réalité, il devient un état. Les conflits entre les mythes deviennent des guerres. La croyance en un dieu devient du pétrole. Eh oui. Et il y a un moment où on ne sait plus lequel fait l'autre, lequel conditionne l'autre. Alors reste la grande question, je ne vais pas la traiter très à fond. Enfin, il faut que j'en parle, puisque c'est un peu le sujet de mon exposé. Les Américains n'ont jamais douté d'être la nouvelle Rome, le nouvel grand empire. Il a toujours paru plus ou moins des livres qui l'ont défendu. Vous citez les Jeux du cirque de Sinclair, notamment, ou les livres de Poe lui-même, d'ailleurs les derniers, ou des livres d'Emerson, bien sûr. Mais en France aussi, des livres de Tocqueville, des livres de... Voyez-vous, on ne sait pas peut-être ces choses-là. Pourquoi est-ce que Talleyrand, après la défaite de Napoléon? Généralement, Hitler, vous avez vu ce que ça a donné, le Nuremberg, il a fallu tuer tous les nazis. Quand Napoléon est vaincu, il n'y a pas de Nuremberg. On ne passe pas devant un tribunal les maréchaux de l'Empire. Non. On ne réduit pas la France, ce qui est tout à fait extraordinaire. La France envahit par les Prussiens, par les Russes, par les Anglais. On ne réduit pas la France. On ne la met pas en esclavage, on ne la met pas sous tutelle, Bon, Napoléon, lui, on l'a mis dans l'île, hein, on l'a exilé, et puis après, on l'a emprisonné pour de bon. Mais la France n'est pas entamée. Alors on nous dit, ah ben c'est grâce à un homme de génie, un diplomate de génie, il y en a, c'est vrai, Talleyrand a réussi ce tour de force, que la France n'a pas été punie par les excès de la Révolution et de l'Empire. C'était, oui, non seulement Napoléon, mais la Révolution, qui avait tué les rois, les princes, les frères, les sœurs, les belles-sœurs, les beaux-frères des rois et des empereurs autrichiens, russes, prussiens, anglais. Il y avait bien des raisons de parler de crimes de guerre. Hein. Non, il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de punition. Parce que Talleyrand est là, et Talleyrand, comme par miracle, il combat tous les autres États, lui tout seul, au Congrès de Vienne, il arrive à ce qu'on absolve la France de ses erreurs. C'est bien difficile à admettre qu'un homme est un tel génie. Non, mais nous avons des papiers de Talleyrand, et nous avons des papiers du ministre autrichien, notamment de Metternich. Et nous voyons que le grand argument de Talleyrand, ah, il surprend au début, au début du XIXe siècle, il semble un peu gros. Mais c'était le grand argument. Ne diminuez pas l'Europe. Ne supprimez pas un grand État européen, alors que l'avenir appartient à l'Amérique. Sauvez l'Europe. Et il était suivi, il était compris. Preuve qu'à l'époque, déjà, pour la plupart des grands maîtres de l'Europe, il ne faisait pas de doute que l'Amérique était l'avenir. Vous avez un texte peu connu aussi, mais enfin tout de même assez connu, d'Hegel, qui cherche que sera l'état de l'avenir, et il dit, ça ne peut pas être l'Europe pour telle et telle raison. Ça ne peut pas être l'Afrique, bien sûr, parce que l'Afrique n'est pas mûre, il faudrait qu'elle revienne maintenant à là. Bon. Je ne vois que l'Amérique, dit Hegel, en 1805. C'est ce que dit Stockville. Donc tout ça est très clair pour tous ceux qui pensent au cours des âges. Pourquoi est-ce que nos gouvernants font comme s'ils ne savaient pas ces textes, comme s'ils ne les avaient pas lus, s'ils ne savaient pas de quoi il s'agit? On peut se poser la question, je pense qu'ils ont la raison de le faire. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que est-ce qu'on ne peut pas empêcher ce destin? Est-ce que nous aurons vraiment un jour une nouvelle Rome de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce qu'il y aura de nouveau le panthéon des 12 dieux? Est-ce qu'il y aura l'attente d'un nouveau dieu, les persécutions de nouveaux apôtres? Est-ce qu'il y aura des légions qui ont commencé, il est vrai, de bombarder à droite et à gauche ou d'envahir à droite ou à gauche? Mais enfin, c'est comme Rome, d'ailleurs, sous le couvert de la fraternité, de l'égalité, parce qu'il faut l'appui. Vous savez, Rome, après coup, comme ça, 2000 ans après, on se dit, oh, quel pays extraordinaire, et quel courage, et quelle force, comment ont-ils pu créer des hommes comme leurs légionnaires qui dominaient le monde, ils n'avaient qu'à paraître pour le dominer. Ils envoient 15 000 hommes ou 30 000 hommes dans un pays en révolte, puis hop, le pays qui compte des centaines de milliers de gens est liquidé, ou il se rend, ou il se soumet. Comment est-ce possible? Ben, vous savez, les Américains, on l'a bien vu, et on le verra plus encore d'ailleurs, n'ont pas besoin d'envoyer beaucoup d'hommes en fin de compte. Rome avait trouvé le procédé suivant. Elle libérait les peuples. C'est-à-dire que quand on faisait appel à eux, quelquefois parce qu'on lui déplaisait, simplement, un homme lui déplaisait, ou un parti, ou un gouvernement lui déplaisait, Rome envoyait ses légionnaires. Mais avec l'accord des autres peuples. Non seulement l'accord des autres peuples, mais des autres peuples venaient, en mercenaires ou autrement, seconder ses légionnaires. Et plus l'Empire s'est installé, plus c'est pratiqué la méthode suivante. Si les peuples ne pouvaient pas donner des mercenaires à Rome pour seconder ses légionnaires, ils devaient payer tribut. C'est ce que nous avons vu pour la première fois dans l'histoire pendant la guerre du Golfe. Bon, je vais peut-être arrêter là parce que je voudrais que vous me posiez quelques questions. On a un peu de temps comme ça. Et je vous en prie. Oui ? Pour moi, mais c'est une idée tout à fait personnelle, et je n'ai pas beaucoup d'arguments pour l'étayer, cette idée. Mais pour moi, le Japon joue aujourd'hui le rôle qu'a joué l'Espagne, il y a 2000 ans. C'est-à-dire que l'histoire du Japon est comparable à l'histoire de l'Espagne. D'abord, l'Espagne alliée de Carthage, puis dominée par Carthage, puis triomphant de Carthage, comme le Japon dominé par la Russie, puis triomphant de la Russie. L'Espagne ouverte, aidant, maîtresse en industrie, les épées étaient célèbres, les armes étaient célèbres. Et donc Rome avait besoin de l'Espagne, et c'est seulement, je crois, en 105 avant Jésus-Christ, ou 108 avant Jésus-Christ, que Rome est intervenue en Espagne pour modérer ses révoltes. Si c'est ça, ce serait seulement vers 2020 qu'on verrait les Américains intervenir de nouveau au Japon. Maintenant, je crois que les Américains n'ont pas besoin d'en venir là pour l'instant. Ils vont se laisser un petit peu grignoter, ils se laissent grignoter. Économiquement, c'est indiscutable. Mais je crois que le Japon lui-même sait jusqu'où il peut ne pas aller. Enfin, vous savez, si nous allons dans le sens que je crains, nous verrons qu'un seul ordre des États-Unis suffit pour arrêter n'importe quelle tendance. Vous avez vu le Kadhafi, maintenant il se fait tout petit, il va passer en jugement lui-même, c'est terroriste. On est au point, ça ne durera pas toujours, il y aura des hauts et des bas, mais on est précisément aujourd'hui au point où il suffit que Bush proclame quelque chose, demande quelque chose, il peut le demander gentiment, pour que tout de suite on se plie à ses désirs. Vous savez, si l'Europe n'a pas pu triompher de l'affaire yougoslave, par exemple, Là non plus, on ne nous explique pas ça. On semble vraiment d'une faiblesse extrême. On ne comprend pas. On ne comprend pas et Mitterrand ne s'explique pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu arrêter la guerre en Yougoslavie? Il n'y avait pas besoin d'envoyer des armées. Hein. Il aurait suffi que le Conseil de l'Europe menace d'envoyer quelques hommes pour que... Si ça ne s'est pas fait, c'est que l'Amérique ne tient pas du tout à ce que ça se fasse. Si l'Europe ne se fait pas, et il ne faut pas, malgré ce qui est proclamé par notre président, le résultat concret des derniers pourparlers, c'est que même la monnaie est remise à 8 ans, pour ne pas parler du reste, alors que l'Europe devait se faire en 93, c'est ça la réalité. Pourquoi est-ce comme ça? C'est pas par hasard. C'est parce qu'il est très difficile d'aller contre les vœux américains. Si l'Angleterre se détourne de l'Europe pour s'approcher de l'Amérique, si l'Espagne rêve maintenant d'un avenir qui engloberait les États d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, etc., et peut-être même un grand Maghreb, pourquoi? C'est qu'ils sentent que l'Europe telle qu'elle est ne peut rien contre les désirs et les vœux d'Amérique. L'Angleterre choisit les destins de l'Amérique contre les destins de l'Europe. C'est fait habilement, c'est fait diplomatiquement, on ne casse pas les tables, mais c'est très exactement ce qui se passe. Alors, encore une fois, ça ne va pas se faire tout seul. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura malheureusement, je le crains, des gens qui vont reprendre, qui vont prendre le rêve d'un pays européen ou d'un autre, et il y aura des fous, et il y aura des maniaques, et il y aura des fanatiques, et il y aura de nouveaux Antiochos 4, etc. Bon, mais malheureusement, les destins semblent bien aller dans le sens d'une Amérique comparable à ce qu'a été Rome il y a 2000 ans. Je crois qu'il vaut mieux le voir clairement, il vaut mieux voir clairement les choses, même si c'est très désagréable, même si c'est pénible. Peut-être qu'on peut faire quelque chose à ce moment-là, au moins intellectuellement, au moins philosophiquement. L'Europe est nécessaire à l'Amérique. Nécessaire pas par son économie, bien sûr, mais nécessaire par ses philosophes, par ses poètes, par ses artistes, par ses peintres, par ses créateurs, par ses inventeurs. Alors il y a peut-être encore quelque chose à faire sur ce plan. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle autre question? Non? Vous n'avez pas levé là, non? Oui. Bien, les mots eux-mêmes vous donnent la réponse, madame. Vous savez, la création de Sumer, la création tout de même magnifique, mais tout de même terrible, barbare, sans morale, sans idéal profond, hein. Il suffisait de faire de belles ziggourats, de faire de belles pyramides. Lorsque cette création a dû céder devant la justice d'Abraham et de Jacob, c'était quand même un progrès, c'était un sacré progrès. Quand la justice d'Abraham a dû céder devant l'amour du Christ, c'était un sacré progrès aussi. Donc, ce qui suivra l'amour qu'on appelle aujourd'hui la liberté, mais une liberté dont nous n'avons pas idée, une liberté harmonique de l'univers, sera certainement aussi distant de l'amour que l'amour l'a été de la justice ou la justice de la création sumérienne.